Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, là, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. L'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans football. L'after uniquement sur RMC à la radio, vous le savez. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Pierre Ducrot est là également. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jérôme Antenne. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra à 23h40 pour le deuxième match de la LFA, la Ligue fermée de l'after. Ce soir, le match aller entre les Rocco Soldiers et les Lusitanos Grizzlies. Ce sera donc tout à l'heure aux alentours de 23h40. Je précise que Ludovic Obraniak fera également son retour dans l'after ce soir pour nous parler des Girondins de Bordeaux. Il a bien connu le club, il y a joué, il y a brillé. Donc Ludo, il sera avec nous tout à l'heure. Et oui, parce que l'événement ce soir dans l'after, c'est la suite de notre dossier concernant les Girondins. L'after va vous faire de nouvelles révélations encore ce soir. Supporters des Girondins, on vous attend au 32-16 pour réagir et débattre. Voilà, ce dossier de l'after fait beaucoup parler depuis lundi. Il continue dans quelques instants. L'actu du jour à 23h, bien sûr. Nicolas Villas qui sera là également vers 23h20 pour nous raconter la reprise du foot au Portugal qui se prépare dans des conditions bien spéciales. Donc Nico tout à l'heure, supporter des foot portugais, là aussi le 32-16 est ouvert. 32-16 ouvert pour tous les sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter, bien sûr. Direct Studio sur les applis qui remarchent à fond. RMC, RMC Sport, zéro coupure, tout fonctionne. Voilà, tant mieux. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages.
Ça fonctionnait plus ?
Sur Direction. Non, il y a eu des coupures ces derniers jours.
Ah.
Du fait de sabotage de fibres.
C'est pas vrai.
Dans le Val-de-Marne.
Et oui. Oh, les mecs ont que ça à faire.
Quoi. Ils sabotent, il y a eu des milliers de foyers privés d'Internet.
Pas le moment.
Bah oui, bah, voilà, c'est comme ça. Mais bon, a priori, ça se rétablit. Donc, en tout cas, pour les applis, tout fonctionne. Les gars, vous êtes là. Fini le radio-travail. Hein, vous êtes là en studio avec moi, là.
Ça fait déjà... Réveille-toi, ça fait un bout de temps.
Ah, oh, moi, c'est tout.
Bah non, Pierre, c'est récent.
Moi, lundi. Début de semaine.
Lundi. Ah, oui.
Ah, tu vas pas nous le dire à chaque fois que tu nous vois, quand même.
Bah non, et pendant deux mois, j'étais tout seul, moi, ici,
bah,
là.
Oui, bah, on l'a senti, hein. T'étais un petit peu moins bon.
Mais non, alors on l'a senti quand toi, t'étais pas là, surtout, t'arrivais à t'engueuler tout seul avec ton canapé. Ah, excuse-moi. Non, alors que là, t'es mieux, t'es plus détendu.
Confonds quand même, Daniel. Là, ne confonds pas de personne.
T'es fou, j'étais pas sur mon canapé, moi, j'étais sur une chaise.
T'es intenable.
J'étais sur une chaise, j'étais pas un canapé. Pourquoi tu parles de canapé?
Est-ce que t'avoues maintenant, avec le recul, que t'as été intenable?
Plus le confinement a avancé, et plus Daniel était intenable, c'est vrai. Sûrement un peu.
Mais encore une fois, j'étais pas sur un canapé.
Non, on s'en fout.
Comme je l'ai endormi.
Il nous a bien cassé la tête, par contre.
Bon.
D'ailleurs, il y a de plus en plus, moi je veux pas relancer le débat, mais il y a de plus en plus de joueurs à l'étranger qui rejoignent la secte des joueurs qui n'ont pas envie de rendre malade leur
famille. Majorettes. Ah ouais, j'ai vu ça.
Ah bah attends, qui a parlé aujourd'hui? Mais
Rose.
Ouais, Rose.
Oh, puis alors là,
lui, il a pas mâché ses mots, lui.
Ah,
lui
il a dit quoi? Ça m'a échappé.
Il a dit quoi? Oh là là, il a
dit que c'était.
Attends, je vais te retrouver les mots exacts.
Quel rose? Le rose anglais ou l'Insee Rose?
Danny Rose.
Non, non, non. Je vais te retrouver le truc.
Il va se passer quoi alors du coup?
Oh, rien d'ailleurs.
Non.
Quoi, je veux dire. Rien. Les mecs sont quand même, rassure-moi, ils sont quand même en train de bosser pour reprendre. Ils ont fait des votes. Ils se sont réunis. Il y a
non,
eu
non.
des. Ça a avancé. Si, les clubs de première ligue, lundi, la réunion, t'es pas au courant?
Ah oui, mais ça a pas avancé justement. Il y a eu les six qui voulaient pas, c'est ça?
Ouais.
Voilà.
Ouais. Ça avance quand même. Ça se discute. En Italie, ça discute. Et
ah
tout.
Ou alors, j'ai pas eu la même chose. Moi, cette réunion, apparemment, bien. ça a stagné bien comme il faut.
Bon, parce qu'il y avait les six.
Non, mais attendez, moi, encore une fois, si vous voulez qu'on joue pas jusqu'au vaccin, il y a aucun problème.
Le mec qui a l'extrême.
Je pense que 2023 est un bon objectif.
C'est bien de vouloir tout bloquer pendant encore 1000 ans.
Bah, et si le vaccin n'est pas 100% efficace comme celui de la grippe,
on attend.
Bah, on est mal.
On attend.
On joue plus.
On attend.
Au moins assumez votre opinion.
Ah, bien sûr. Moi je te dis, moi je mise 2023.
Continuez à être payé, bien sûr. Les anciens joueurs,
que non, bien sûr.
Tous
être payés. Faut pas.
Faut pas. Alors,
avant de parler de Bordeaux, tiens deux messages.
Vous êtes payé ou pas payé?
Carlos nous dit enfin le retour. retour de Villas. Vous parlez pas assez du foot portugais. Bon, ce sera le cas ce soir. Et puis Jeff nous dit vos histoires, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est le résultat du match de tennis entre Jérôme et Daniel. Du Jeff.
On a pas joué. Il a fait forfait en pleine nuit. Je veux ce qu'il t'a dit. Mais tu dormais pas ou quoi?
Ah non, j'ai du mal à dormir.
Ah putain, je me réveille ce matin. J'ai
à cause du match qui est arrivé.
Message de Jérôme Brantin. Je me dis putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Je me suis limite inquiété. À 2h30 du mat et tout. Ah, je peux pas jouer demain parce que j'ai un peu peur. Je suis pas prêt.
Non, pas vrai.
J'ai pas envie de prendre une tôle parce qu'après tu vas te vanter de m'avoir mis une tôle. Alors que moi, je dis jamais rien quand je le bats. Là, visiblement, il se cacque dans la nuit. Il dort pas de la nuit à cause de ça, il a mal au ventre.
Mais pas du tout.
Droit de réponse, Jérôme Brantin.
Le droit de réponse, c'est que j'arrivais pas à voir le directeur de l'endroit où on joue. Et donc,
vu que du mat, c'est normal qu'il décroche pas.
Non, mais avant, toute la soirée, on était là et tout, il m'a pas répondu. Donc j'ai dit, écoute, pour assurer le coup, je préfère dire à Daniel à 11h demain, vaut mieux pas. Et
il
on joue.
Il qu'il avait les boyaux tordus.
Et on
avait
joue
peur.
Demain. Et là, il me dit, oh bah non, là maintenant, il veut jouer avec un.
Ah ouais, non, mais parce que moi, je suis sa danseuse. Je suis sa dispo, tu vois.
Te remettre en forme d'abord, c'est ça?
Pas du tout, j'ai fait déjà deux fois que je joue.
Ah, t'es ma danseuse, c'est normal, vu les résultats, les derniers résultats.
Alors, et moi, écoute, je veux pas te trahir de secret. Bon, je vais prêcher pour ta paroisse, tu vois. Je veux pas trahir de secret, hein, mais hier, devant l'entrée, je t'ai entendu dire. Laisse-moi faire un match pour voir où j'en suis et après on joue ensemble. C'est pas vrai.
Merci,
c'est
pas vrai. Pas hier.
Merci. Mais si, hier à l'entrée, lundi à l'entrée, ouais, lundi à l'entrée.
Exactement, c'est vrai.
Mais ça va pas. Non, il est fou.
C'est vrai.
Mais ça va pas.
C'est pas vrai.
Mais je devais jouer. J'étais déjà calé mardi. J'avais déjà des rendez-vous.
Ah, c'était mardi.
Et okay.
Bon, okay. Bordeaux, on y va les gars.
Tu veux Dany Rose ou pas?
Oui, Dany Rose. Il a dit quoi alors?
C'est une blague. Je ne vais même pas mentir. Le gouvernement dit de reprendre le football parce que ça va remonter le moral de la nation. Je m'en fous du moral de la nation. La vie des gens est en danger.
Et tu trouves ça bien ce qu'il dit?
La vie des gens est en danger.
Et tu trouves ça bien ce qu'il dit?
Il met la vie, la priorité, c'est la vie des gens et la santé des gens.
Est-ce que tu trouves que le propos est juste?
Que la vie des gens est en danger? Oui.
Non mais. Ah oui. Pour faire le coup de dire une absurdité évidente.
Tu m'as appris à faire ça.
Tu trouves qu'elle est belle, sa déclaration? Elle est grotesque.
Je trouve que la fin de la déclaration est très
grotesque. Arrête, je sais très bien que c'est grotesque.
Allez, Bordeaux. Donc lundi, on a parlé de la façon dont fonctionnaient les Girondins sur les ventes de joueurs.
Non, n'empêche, ça déclare.
Hier, tais-toi, Daniel, maintenant. On parle plus de tennis, ce truc. Hier, on a parlé de quoi?
Volontariat.
On t'a dit de te taire. Hier, on a parlé du fonctionnement de centre de formation. On a parlé des contrats hallucinants de certains joueurs, entre autres. Et ce soir, on va aborder un dernier dossier, Daniel. On va aller plus sur les bureaux avec notamment la stratégie. Oui, qu'est-ce qui se passe?
Sur les bureaux, t'as dit?
Non, dans les bureaux. J'ai dit sur les bureaux.
Dans les bureaux.
Dans les bureaux. Dans les bureaux. Autant pour moi. On va parler de certains dirigeants.
Il a un bon dîner, il a signé 3-4 joueurs.
Notamment des tensions.
Il a un peu de cash et il est en forme.
Notamment des tensions.
Les dîners, oui, mais le reste, non.
Notamment des tensions qu'il existe autour d'Anthony Thiodet, qui est le bras droit aujourd'hui de Frédéric Longuepé au Girondins de Bordeaux. Donc, les éléments tout de suite dans l'after. Et ensuite, nous débattons, bien sûr. Précisons en préambule qu'Anthony Thiodet est en conflit ouvert avec les ultra bordelais depuis des mois. Hein,
Longuepé aussi, c'est le duo qui est en conflit ouvert.
Oui, alors Thiodet, peut-être, c'est peut-être plus aigu non, encore avec Thiodet.
Les supporters en volent autant à Longuepé, c'est juste que Thiodet est un peu en première ligne.
Je rappelle quand même.
Et les révélations.
Alors, on y arrive.
C'est le numéro 2 du, voilà, du club.
Tu veux présenter Anthony Thiodet?
La personne qui a embauché
côté marketing, billetterie, oui, etc.
Le club est en gros scindé entre sportif et administratif et financier. Est-ce que tu veux, Gilbert, un historique? Tu veux qu'on rentre directement dans les faits?
Je veux savoir, d'abord, si tu veux, mais après, il faut quand même qu'on fasse le parcours d'Anthony Thiodet, qu'on raconte qui il est.
Ce qui s'est passé à l'arrivée de Longuepé, c'est que... le choix du président, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait été un petit problème parce qu'il y avait plusieurs candidats. Il y avait Jean Dartuy qui était, on va dire, le favori d'M6 et Longuepé plus un troisième larron qui était arrivé dans l'affaire au dernier moment, Vincent Tongkong. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Résultat, en fait. Le choix de D'Agrosta.
Là, on est au moment de la vente du club, ouais.
Le président d'Agrosta était,
oui,
déjà là.
Tout à fait.
Était déjà là.
Oui, ça venait de se faire. Street, voilà. C'était le début de l'ère.
En fait, c'est pratiquement d'Agrosta et les autres qui ont dit c'est mieux si on prend celui qu'on pourra le plus facilement contrôler. C'est un peu comme ça que ça s'est fait et c'est un peu comme ça que le choix de Longuepé a été fait. Longuepé n'est pas plus bête qu'un autre dans ce genre de circonstances. Une fois arrivé, a essayé de placer ses équipes et né une guerre interne de tout ça. Quand ils ont eu assez d'éléments pour démontrer que la gestion de GACP était catastrophique et que Varela avait croqué bien comme il fallait, a demandé à King Street de virer GACP. bataille gagnée à moitié par longue épée, puisque pas mal de gens de GACP sont restés, comme on l'a dit mille fois, Massia, Souleymane Cissé, à qui longue épée a pendant très longtemps même pas adressé la parole. Ils se croisaient pas. Et d'ailleurs, il faut savoir que longue épée au début a dit à Paulo Sousa qu'il n'avait pas à lui parler. Parce que le rapport de hiérarchie faisait qu'il y avait Eduardo Massia entre les deux. Et il a dit à Paulo Sousa, on n'a pas à échanger tous les deux. Si tu dois parler à quelqu'un, c'est à lui, pas à moi.
Ça vous choque, ça, vous, qui avez vécu dans de nombreux clubs?
Je pense que ça décrit déjà les rapports qui s'installaient.
Tu peux voir le verre à moitié plein. On respecte énormément la hiérarchie des hommes en place.
Oui, on ne se mise pas dans le sportif, comme disent les présidents.
Tu peux voir le verre à moitié vide en te disant que c'est quand même pas mal que tout le monde puisse se parler dans un club, surtout quand tu parles d'un président et d'un coach de l'équipe première. C'est pas mal quand même.
Non, mais là, c'est problématique. De toute façon, dans tous les cas, en effet, la hiérarchie est importante et que s'il y a un directeur sportif qui est là, au milieu, c'est normal qu'il fasse le lien avec le président, entre le président et l'entraîneur. Mais au d'un moment, tu peux pas réagir comme ça. Du moins, je peux comprendre qu'ils veulent pas s'intéresser parce que Daniel va nous expliquer des choses et puis pour avoir aussi des vues un peu plus larges sur ce que connaît Longue Épée dans le football, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'échanger avec Sousa.
En gros, il a dit moi je suis au-dessus, donc t'as pas à me parler à moi.
Ouais, mais c'est plus là-dessus, ouais.
Alors, je précise quand même deux, trois choses sur Frédéric Longue Épée. Il a passé de sportif, il a été gymnaste à très bon niveau, et non pas escrimeur comme son nom semble l'indiquer.
Barre parallèle.
Bel et bien gymnaste.
Et autres activités.
C'est vrai,
et autres agrès.
C'est vrai qu'il y a des ressemblances avec le foot, donc c'est important d'avoir l'expérience de ça.
Ceci dit, un grand sportif, tu peux avoir certaines dans tous les sports, dans la notion de l'effort,
c'est pas l'argument principal,
etc. Ça peut servir quand même d'avoir
la limite sur son avis d'autres qui connaissent pas le foot et tout. C'est le plus grave, mais
résident. En tout cas, il y a eu une vie professionnelle intense avant d'arriver au Girondins de Bordeaux dans différents secteurs. Il a notamment travaillé au Paris Saint-Germain.
Service commercial, ticketing, billetterie.
Voilà.
Qui n'a rien à voir avec le rôle de président.
Voilà. D'ailleurs, on a loué son travail au PSG. Hein.
Oui, mais dans le milieu, tout le monde dit, en revanche, il a été nommé président.
Meilleur pour imprimer les billets. Mais
voilà. Le monde du foot.
Ah, mais il n'était pas imprimé les billets. C'était un cadre de haut niveau au PSG.
Oh, c'est bon. Il a été nommé président à Bordeaux. Le monde du foot est quand même tombé de la chaise. Parce que les autres présidents, les gens qui avaient bossé avec lui au PSG, sont quand même tombés de la chaise. On a dit, attends, président? Pas ticketing, hein. président. Les gens étaient assez scotchés
les témoignages que j'ai pu avoir PSG, de gens qui ont côtoyé Frédéric Longue Épée au PSG étaient à dire que il travaillait bien et même que il faisait de l'ombre parfois sur certains dossiers commerciaux marketing à Jean-Claude Blanc ou à monsieur Mimran qui était à l'époque là,
et que c'est compliqué de
ces deux personnalités-là, en fait, si tu veux, s'entendaient pas forcément avec Longue Épée, oui, qui parfois,
faisait bien, faisait mieux.
Aussi bien, voire mieux qu'eux.
Bref, ça n'est pas un président dans l'âme, mais effectivement, dans le milieu, la nomination a très surpris. Et quand il est arrivé à Bordeaux, il a immédiatement voulu s'imposer comme un patron. Et c'est ce qui va être son œuvre jusqu'à aujourd'hui, c'est écraser tout le monde en nommant ses hommes. Il y a un ordre.
C'est normal, un patron quand il arrive dans une entreprise en général.
Surtout quand t'es pas habitué à être patron, forcément, d'autant plus.
Tu t'entoures un petit peu de gens que tu connais.
Tu veux pas qu'on avance un peu pour que tu continues à dire c'est normal, parce que tout ce qui suit est normal.
Non, je te dis pas que c'est normal.
Tu diras à chaque fois c'est normal.
Lui, c'est la vie de l'entreprise.
Tu diras qu'après il a un lien de parenté.
Dans la vie de l'entreprise, on dit on convient avec ses équipes.
Oui, bien sûr. Donc, le mariage, il y en a pas eu véritablement avec Paulo Sousa, parce que très rapidement il y a eu le divorce. Alors parfois les divorces se font comme dans la vie sur des détails et des conneries. Il y a eu notamment ce truc de tu me parles pas, je suis trop au-dessus. En gros, tu parles à ton N+1. Moi je suis un. Et il y a une histoire qui a un peu officialisé la rupture. Moi j'ai trouvé ça drôle plus que dramatique. C'est que Longue Épée avait passé un partenariat avec David Bellion, a monté une boîte de fringues qui s'appelle Étude, un sweat capuche. Et en fait, Longue Épée a obligé l'équipe à une soirée des vœux.
À porter
ces fringues-là, la plupart ne voulaient pas. Lui, il s'est énervé, il faut mettre votre sweat capuche qui était pas aux couleurs du club, qui avait hein. Et Paulo Sousa, c'est déjà pas en odeur de santé, s'est braqué avec ça et a surtout dit je ne mettrai pas ça au bord du terrain, parce qu'on voulait l'obliger à porter ça au bord du terrain pour faire de la pub à la boîte avec qui ils avaient signé le partenariat. Mais là encore, ça montre qu'il y a aucune discussion, aucune conciliation. Exactement. C'est une petite affaire.
Ceci dit, non mais ça peut prêter à rire. Je ne sais pas comment était le suite, s'il était vraiment horrible ou pas.
Il est sur internet, mais, tu le retrouves.
Ouais, mais ceci dit, quand tu signes un contrat de joueur ou de coach dans un club, à un moment donné, tu as des clauses qui portent et vraiment là-dessus. À un moment donné, si le club signe un contrat de partenariat avec une marque,
mais il y a eu du
cas. T'es obligé de suivre.
En chemise veste, bon bah voilà, il va avoir un placard
3 quand on m'obligeait à porter le Rica Lewis. C'est vraiment parce qu'on m'obligeait, parce que franchement.
Non, mais c'est
pas à la boutique.
Ah non.
Des fois, j'achetais un Levi's.
T'es obligé d'aller prendre ta baguette chez Maggie.
Je mettais un Levi's, mais ça se voyait trop que c'était pas un Rica Lewis.
Bon, en tout cas, petit à petit, effectivement, on va dire que l'exploit de Longuefe aura été de se couper de tout le monde à travers ce genre de petites anecdotes qui, évidemment, peuvent ne pas sembler super graves. Il y a des choses, notamment du côté d'Anthony Thiodet, qui est le numéro 2, qui seront plus graves. Mais il y a eu, par exemple, cette idée au stade de faire le salon dans le salon pour couper la direction. À Bordeaux, il y avait une tradition que la direction pouvait rencontrer les partenaires, pouvait être proche, on va dire, des gens. Lui, on va dire, il a fait quelque chose qui ressemble peut-être un petit peu plus au PSG, où la Corbeil est un petit peu plus élitiste. Il n'est pas rentré dans Bordeaux. Il n'est pas rentré dans la ville, il n'est pas rentré dans les traditions locales, il n'est pas rentré dans la mentalité locale et dans l'échange qu'il y avait avant. Il a coupé tout le monde de tout le monde. La convivialité, ça a disparu. Alors, ils ont voulu récupérer ça avec une formidable idée qui est la boîte de nuit dans le stade. Vous avez déjà entendu parler de la boîte de nuit dans le stade, le vestiaire qui était réservé pour les VIP et pour les joueurs. Idée grotesque qui a coûté beaucoup d'argent parce que Bordeaux joue beaucoup de matchs en journée, donc la boîte de nuit à 17h ou à 19h.
À Sedan, ça marche, à Bordeaux, c'est moins bien.
C'est moyen. Il y a eu la volonté de récupération de l'exploitation du stade, qui également est un échec. Ça peut pas. Parce qu'on sait que le partenariat public-privé marche pas. Ils ont vous fait des pieds et des mains pour récupérer la concession auprès de Vinci, mais déjà que Vinci avait du mal, lui, il a estimé qu'il ferait mieux. Mais il a pas fait mieux. Donc il
ça,
s'est
c'est
coupé.
C'est lui qui a fait ça, ça.
Ouais,
c'est
il s'est
pas,
coupé.
Avant, ça
il s'est coupé des partenaires. Il s'est coupé du vestiaire. Il s'est coupé des supporters. On y viendra. De tous les acteurs socio-économiques, culturels de Bordeaux. En arrivant, en plaçant ses hommes, puisqu'il paraît que c'est normal de placer ses hommes. En fait, il a tout simplement viré 100% des membres du comité de direction. 100%. Donc des gens qui étaient là depuis longtemps, des Bordelais, pour mettre que des gens hors Bordeaux. Quelques-uns sont totalement affichés supporters du PSG, ce qui, moi, je trouve choquant. Dans un club comme Bordeaux, qui a une véritable... Dans tous les clubs, je trouverais ça choquant.
Bah oui,
mais dans un club comme Bordeaux, où en plus, il y a une tradition forte, et en plus, on n'aime pas trop le PSG, avoir dans les couloirs et tout des gens qui sont proches comprendre. Du PSG et des gens qu'on a recrutés.
Juste petite parenthèse là-dessus, Daniel, ça c'est un travers que connaissent pas mal de clubs français, c'est que en fait il y a aussi un petit mercato des administratifs. Par exemple, un patron du marketing d'un club peut devenir patron du marketing d'un autre club, un DIRCOM d'un club peut devenir DIRCOM d'un autre club, et on l'a déjà vu, hein, on a vu un DIRCOM du PSG qui était avant à Lorient ou à Marseille.
Ils ont pris que des mecs.
C'est-à-dire que ça pour moi tu dois prendre des gens de chez toi. Tu dois construire ton club avec des gens de chez toi.
Ils n'ont pris que des mecs extérieurs, des mecs qui avaient des CV, qu'ils ont recruté très cher. Ils ont fait exploser, là aussi, comme pour les joueurs, la masse salariale, parce qu'ils ont pris des mecs, par exemple, le mec du sponsoring vient de New York. Il a fait New York-Bordeaux, quand même.
Ça se fait bien maintenant, New York-Bordeaux.
Ouais, mais à mon avis, je pense qu'ils l'ont bien aligné. Le mec de la com est un ancien de chez Lidl et Danone qui a bossé au cabinet de Jean-François Copé et de Laurent Wauquiez, qui est un grand supporter du PSG, lui, par exemple. Mm-hmm. À Bordeaux, je trouve que là, ça fait vraiment désordre. Ouais. Le mec du digital, c'est un ancien du digital du Real Madrid. Lui, il bosse depuis Madrid. Il n'est pas à Bordeaux.
Ah. Ouais.
C'est pas utile qu'il soit à Bordeaux, donc il bosse depuis Madrid.
Ah, c'est le télétravail, c'est comme ça, c'est la nouvelle date.
C'est digital aussi.
Voilà. Ça, plus effectivement le fait qu'il y a un Espagnol à la tête du club. Enfin, le club de Bordeaux est complètement hors sol. T'as l'impression qu'il n'y a.
L'attachement.
Il n'y a plus de Bordelais au club. Et ça, les Bordelais, c'est ce qu'ils reprochent de plus à cette direction-là.
c'est qu'il y a pas
ou alors il y a des Bordelais qui pour l'instant ne réagissent pas. Enfin, il est quand même Bordelais. Pour l'instant, il n'a pas réagi.
C'est pour ça que tout à l'heure, dans le Dugas, je disais que s'il veut rattraper les 2-3 casseroles qu'il a au cul, ce sera bien qu'il
Patrick
se bouge.
Patrick Battiston est toujours là.
Patrick Battiston, c'est le bureau dormant.
Marius Trésor, il est toujours dans la zone. Il est parti à la retraite, Marius Trésor, mais il est toujours à Bordeaux.
Battiston, s'il préfère dormir et rien dire parce qu'il a peur pour sa place, ok, moi. J'ai envie de l'encourager à tout déballer parce que lui, il sait tout. En plus, il est dans un placard doré, il fait rien. Parle, parce que ne pas parler, c'est également coupable. Donc réveillez-vous, les Bordelais qui êtes encore là-bas. Donc, avec le sportif, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis, avec le sportif et l'administratif, on est passé de 200 à 300 salariés. Ça a contribué à creuser les finances.
J'ai fait une petite recherche, Daniel. À 300 salariés, donc au PSG, il y a environ 500 salariés. Hein, donc
c'est le troisième. Plus que ça à Paris.
Ah mais c'est quasiment
t'es quasiment à 700 ou à 800, je sais plus, je te dirai. Écoute, mais
moi j'ai vu ça sur les chiffres que j'ai vus, mais peut-être que tu as raison. En tout cas, Bordeaux est le deuxième club de France le plus staffé. Ouais. C'est-à-dire plus que Lyon.
Ah bah tu vois, je te l'avais dit.
Plus que Lyon, c'est à 250.
C'est un délire déjà. Hein.
Marseille, c'est environ 170 salariés.
Ouais, c'est moins. Voilà, 300, hein, vous entendez, c'est quand même incroyable, incroyable. Et donc il y a en interne cette rivalité, parce qu'il en reste quand même des anciens Bordelais, et tous les nouveaux qui dominent. Et les anciens Bordelais, ils s'appellent Team Lescure, donc ils sont bien identifiés. C'est en gros, c'est les pestiférés, tu vois. C'est ceux qui sont à part. Et donc, encore une fois, tout est sclérosé dans ce club. Donc j'ai dit le vestiaire, les anciens, les institutionnels, on n'en parle pas. La mairie, c'est pas mal désintéressé ces derniers temps de Bordeaux. Et Juppé, on a su, il en a pas souvent eu quelque chose à faire du foot. Il y avait eu cette lettre rendue publique par un opposant écolo qui avait demandé des comptes au club. Il avait envoyé une lettre à longue épée qui lui a répondu, une lettre incendiaire que cette personne qui s'appelle Pierre Urnic, je crois, a rendue publique pour montrer à quel point longue épée était un homme de dialogue. Non, lui, toujours très arrogant, très très cassant. Donc les institutionnels se sont éloignés du club. Ils ont viré le plus ancien salarié du club qui avait 35 ans de boîte. Il s'est fait virer du jour au lendemain, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus, comme tu le disais, que Battiston. Et pour le reste, il y a plus personne. Bon, ensuite, il s'est appuyé principalement, et c'est là qu'on rentre dans le dossier dur, il s'est appuyé sur Anthony Thiodet. Anthony Thiodet a un CV où il a fait plein de choses, mais où partout il s'est fait virer, ça s'est mal passé. Ah. Mais partout, tous les témoignages font état d'un mec imbuvable, qui a provoqué beaucoup de burn-out chez ses collaborateurs. Donc son parcours, il y a Adidas, il y a l'ASVEL. Après, il a été.
Il a bossé dans des fédés, il a bossé dans des clubs de hand.
Il a bossé
Chambéry,
dans des fédés,
Nantes, il a bossé, il a travaillé avec l'OGC Nice.
Et lui, son grand truc.
Avec le Stade Français.
Il est conseiller pour remplir les aussi. Stades. Partout où il est passé, les stades se sont pas remplis. Mais enfin, il a un gourou sur lequel il s'appuie.
Parce qu'il est spécialisé sur ce qu'on appelle le ticketing.
Voilà. Il a un gourou sur lequel il s'appuie.
Donc la gestion de la
dans toutes ses réunions, il en parle. C'est Marshall, qui est un Américain, qui est à la tête de la franchise de Portland. Et en gros, il l'a rencontré.
Marshall, c'est bien connu aux États-Unis. Voilà.
Il a un plan, en fait.
Exactement. C'est son gourou. Et il vide la tête de tout le monde avec ça, avec un vocabulaire plein d'anglicisme sur ça va marcher, on va remplir le stade comme ça, sans s'adapter là où il est. Il a conseillé, comme t'as dit Gilbert, même à Nice, hein, mais partout où il passe, en fait, les stades, il ne les remplit pas, contrairement à ce qu'il dit. Il met en avant, il est même passé à New York, enfin partout ça s'est mal passé, c'est une catastrophe. Les gens le détestent dans tous les clubs, partout où j'ai consulté. On est heureux que ce mec se soit barré. Il se vante juste d'un truc où a priori ça ressemble à une réussite, c'est d'avoir rempli La Rochelle en rugby.
Ça, c'est plein. La Rochelle en rugby.
Stade de 18 000 places. Les gens disent là-bas qu'on n'avait vraiment pas besoin de lui et du plan Marshall.
Ouais,
pour remplir.
Pour remplir
le stade. Et puis, pour couronner le tout, cet Anthony Thiodet, il a une boîte de commerciaux qui s'appelle Time for Biz. Donc, en fait, ils ont recruté une vingtaine de commerciaux, genre, haut de gamme, haut de pointe, pour remplir le stade à Bordeaux. Pour faire le business, développer le ticketing, les partenariats, les moyens. Et en fait, quand les commerciaux sont recrutés, ensuite, ils doivent aller faire une formation dans l'école de Monsieur Thiodet.
Ah oui.
Parce que ça permet.
Ben, c'est pas encore. Ça veut dire qu'ils sont pas.
Je précise d'ailleurs, Daniel, pour être complet,
La formation, elle est pas gratuite. Hein.
Ça j'imagine. Ouais.
Voilà. Ouais. Elle est facturée à Bordeaux, évidemment.
Sur le.
Quand même.
Évidemment.
Le conflit avec les ultras, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Anthony Thiodet avait enlevé de la vente. c'est la version des ultras, avait enlevé de la vente la possibilité d'acheter des places dans le virage sud, donc le virage des ultras. En gros, pour inciter les gens à prendre des billets ailleurs plus chers. Voilà. Exactement. D'où le boycott des ultras et l'énervement des ultras.
J'ai entendu et j'ai vu passer un truc avec Trémoulinas et puis j'avais déjà vu la lettre à l'époque avec les clubs partenaires.
Ouais, les clubs partenaires, on en a parlé déjà.
Je sais pas si c'est lui ou si ça date d'avant.
Ça date de la nouvelle direction.
C'est lui.
Alors en fait, je rappelle le principe juste.
Vas-y.
Ça, on en a parlé dans l'after il y a quelques semaines déjà. C'est qu'en fait, Bordeaux propose aux clubs de la région de devenir partenaire. Mais la tradition française, c'est quand tu es partenaire d'un club amateur, tu vas l'aider
partout,
sans rémunération. Et là, ce que propose Bordeaux,
c'est toi qui aides même un petit peu les.
Voilà,
les clubs
ce que propose Bordeaux, vous devenez partenaire en payant.
Ah oui.
Alors, attention parce qu'il faut tout dire. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité d'être partenaire sans payer. Hein, dans ces cas-là, c'est le truc traditionnel. On va filer quelques ballons, un peu d'aide, voilà.
Quelques places au stade.
Mais si le club amateur paye 3000 euros, en contrepartie, il a des aides de la part des Girondins sur la formation des éducateurs, l'organisation du club, des aides techniques, administratives, que les Girondins évaluent à largement plus que les 3000 euros en termes de prestations.
Ouais, c'est différent ce que tu nous dis,
voilà. C'est comme ça que c'est expliqué au club. Hein. Mmh. Maintenant, c'est vrai que culturellement, c'est pas une habitude qu'on a en France de faire ça. Ça se fait beaucoup dans les franchises américaines.
Non, après, tu vois, les clubs qui ont des clubs partenaires ne forment pas effectivement les éducateurs, etc. Ça se limite à des actions, déplacements pour les jeunes
les clubs
au stade
amateurs,
ou des
entraînements. Les clubs amateurs, ils ont pas les moyens de toute façon de payer ça, enfin ou très peu de clubs amateurs. Donc bon, à ce stade de la discussion, on fait une pause et on continue derrière. On aura Jean Aurel au 32-16 qui veut réagir et on aura également Ludovic Obraniak avec nous, ancien bordelais, qui a suivi toute cette histoire de très près et qui lui aussi veut donner son avis. Il est de retour dans l'after ce soir. Ludo, ce sera dans quelques instants.
RMC,
l'after foot,
Gilbert Bribois.
Jean Bretel est là, bien sûr, Pierre Ducrot et Daniel Riolo. On conclut donc les infos à donner sur notre dernier volet donc de révélations concernant le fonctionnement de la Girondins de Bordeaux. Et ensuite, on accueille Ludovic Obraniak. Daniel, tu as encore deux choses à dire.
Ouais, dans tout ce qu'on a dit, même hier et avant-hier, ce qu'au final on a envie de demander, c'est mais Longue Épée, il gère quoi? Parce que s'il valide, soit il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le sportif et il est coupable de pas le savoir, soit il est au courant et c'est encore pire. Dans ce que je disais, le foot hors sol, hors Bordeaux en tout cas, j'y ai pensé quand je disais que le mec du digital vit à Madrid et pas à Bordeaux. Parce qu'il y a plein de gens qui bossent pour ce club, mais qui n'y sont pas. Mmh. Et il y a très important, c'est Oli Waldron, le numéro 1 de la cellule de recrutement, l'adjoint de Massia. Lui, par exemple, il vit à Londres. Il vient pas à Bordeaux, parce que ça sert à rien de venir dans le club dans lequel tu travailles.
Tu voyages plus facilement de Londres, hein, quand tu vas aller voir les matchs partout en Europe.
Probablement. Et en plus, il a fait embaucher son frère comme analyste vidéo, mais il n'est pas à Bordeaux non plus. Ça sert à rien. Et puis petite précision,
allez,
pour la boîte
Adèle,
Time for Biz, où vont les commerciaux de pointe qui sont recrutés mais qui ont quand même besoin d'informations dans la boîte créée par Thiodet, la femme d'Anthony Thiodet donne des cours. C'est plus facile parce qu'ils préparent les fiches ensemble, les cahiers.
Une entreprise
cours,
familiale. Enfin, Ludovic Obraniak.
Familiale.
Voilà. Ludo, voilà. Bonsoir.
Salut les copains.
Salut Ludo.
Ça va?
Bah ouais, content de vous entendre. Ça faisait un bail.
Bah oui.
Comment ça, tu nous écoutes pas le soir?
Vous avez sorti la sulfateuse ces derniers jours.
T'as écouté?
Ouais, je sais pas, il paraît que t'es au courant, toi, de beaucoup de choses à Bordeaux.
t'en as dit le principal. Je te félicite d'ailleurs pour ton investigation. C'est vraiment, ça redonne beaucoup d'espoir aux gens qui travaillent là-bas et qui sont, pour la plupart, dans un état déplorable sur le plan psychologique.
Tu parles de salariés du club là, hein?
Ouais, parce que moi, vous avez évoqué hier, j'ai été estomaqué de ce que j'ai entendu, et moi, à la limite, encore, la bande Amassia, Varela, au bout de quelques semaines, on a très vite compris pourquoi ils étaient là et comment ça allait se passer. Mais moi, ce qui me... Vous parliez d'Ulrich Ramé, mais putain, la légende Ulrich Ramé, ce que j'ai entendu hier, j'espère qu'il va longer les murs, qu'il va baisser la tête, parce que...
Bah, moi, je rappelle juste...
Ou alors qu'il se rachète en balançant et en sortant du bois.
Non, mais il le fera pas, mais avoir donné des mandats à une nana avec laquelle tu avais une relation privilégiée, et enfin, ça sort de l'entendement. Quand t'as joué 15 ans pour un club, entendre un truc comme ça, ou même plus, hein, peut-être, je crois que Loric, il a même été formé, c'est dingue. C'est dingue d'entendre des trucs pareils.
Toi, tu as des contacts avec des gens au club là, qui te parlent régulièrement?
Moi, quand j'étais au club, enfin, ça s'est passé comme ça, et ça se passait comme ça du clan du temps de Claude Béz et de Jean-Louis Trio. Il y avait une plateforme importante, parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, on est dans un parc qui est ouvert, c'est un parc public. Donc, il y a un triangle structurel, et la pointe du triangle, c'est le château. Et le château, pendant des années, ça a été le trait d'union entre le sportif et l'administratif. Chapeauté par Jean-Louis Trio, qui lui était le patriarche et le chef de famille, qui était le père qui rassemblait, qui avait tendance à plus rassembler les gens qu'autre chose. Donc les joueurs venaient manger le midi, les administratifs venaient manger le midi, les sponsors venaient manger le midi au château. Il y avait
dans le petit restaurant, là, on y est allé une fois.
Il y avait la cantine aussi du centre de formation.
Vas-y, Bertrand, moi, je suis pas mal. Hein.
Où pouvaient manger les salariés.
Donc il y avait une vie bordelaise, quoi.
Comment s'appelle la dame, Ludo,
un peu familial.
Comment s'appelle la dame, justement, qui sert au resto et qui est.
C'est Mané et Bernard.
Eh oui, ouais. Moi quand j'y suis allé, mais extraordinaire cette dame. Elle connaît toute l'histoire de Bordeaux et voilà. C'est la bosse. J'espère qu'elle est toujours là.
Et Bordeaux, tu peux pas y réchapper. Si t'arrives pas à conquérir le château, c'est impossible de pouvoir fonctionner. Moi, je suis resté un temps très court à Bordeaux, mais ça a été très intense parce qu'on a vécu une aventure sportive assez intéressante avec le parcours en Coupe d'Europe et puis la victoire en Coupe de France. Donc on a tissé des liens très forts. Donc je suis resté que 2 ans, mais j'ai gardé énormément de liens avec les salariés du club. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a 2 personnes proches de la mégalomanie qui ont instauré un climat délétère, qui font du harcèlement moral constant.
Absolument, je ne l'ai pas dit, tu fais bien de le dire. C'est la méthode. La méthode, c'est le harcèlement moral, ouais, c'est vrai.
Harcèlement moral, pression, j'ai même entendu parler d'un cas de misogynie. Il y a Frédéric Longuepé qui, lui, bien sûr, on a énuméré, hein, soit, tu l'as dit, Daniel, soit il tolère tout ça, donc il est complice de tout ça, soit il est au courant de rien, et dans ces cas-là, il n'a rien à faire là, parce que ça aurait jamais échappé à un président de n'importe quel club. Après, il y a son bras armé, qui est Anthony Thiaudet, qui, lui, espèce de mégalomane, pseudo-pro du marketing et du digital et du truc, qui, lui, est persuadé que tu peux faire marcher le stade ou tu peux faire venir les gens et gagner de l'oseille sans le sportif.
C'est ça, c'est exactement ça. Je suis content que tu complètes.
Je précise juste quand même, Ludo, parce que tu as des retours directement de l'interne, en fait. Hein, ce que tu nous racontes là, c'est pas ton ressenti à toi,
parce que ce qu'il dit, moi, je l'ai entendu, mais il le dit mieux que moi.
C'est bien important de le préciser, quoi.
Mais bon, je vais vous donner une info pour un pro du marketing. Ton principal sponsor, qui est le Bistrot Régent, qui t'a accompagné, qui est sponsor maillot, donc FAS, hein, qui lui a dû faire face à la crise aussi, hein, avec les restaurants fermés pendant encore un certain temps, qui lui avait décidé de mettre entre parenthèses les paiements et puis de repartir quand ça irait mieux. Il a reçu quand même une lettre d'avocat de la direction du Girondins de Bordeaux en lui demandant de payer ce qu'il doit. Donc le
il va y avoir une bagarre judiciaire, quoi. Donc
Bistrot Régent ne sera plus le sport, parce que le Bistrot Régent avait une clause dans son contrat qu'en cas de problèmes sanitaires, il pourrait se retirer. Donc Bordeaux commencera la saison prochaine sans sponsor maillot.
Voilà, Bordeaux va perdre un sponsor maillot, ouais, carrément.
Alors que t'as un mec qui était là, qui kiffait le club, qui injectait quand même une somme rondelette. Pour des pros du marketing, moi l'histoire là, je vous
Mais Thiaudet est passé partout, s'est fait virer partout et a laissé une image abominable partout. Donc moi, ces gens qui retrouvent sans arrêt des postes en étant passés partout et en laissant une image aussi déplorable, j'arrive pas à comprendre.
Alors je précise à ce stade de la discussion.
Pour moi, pour le coup, ils ont du talent. Hein.
On a contacté le club, hein, au Girondins de Bordeaux. On leur a dit, nous, l'after, on va évoquer ce qui se passe. On a des informations à dévoiler. Voilà, c'est ça. Mais on les les a invités, hein, on les a invités plusieurs fois ces derniers jours en disant mais nous il y a pas de problème, vous êtes les bienvenus dans l'after.
Non, mais tu sais pourquoi ils
messieurs Longuepée, Thiodet, attends, je laisse-moi quand même finir, c'est important de le préciser. Ne croyez pas que nous on est juste là à charge, on dévoile des informations et cette enquête, évidemment qu'il y a un droit de réponse tout à fait possible. Moi je le souhaite, même j'espère que ils vont venir dans l'after pour nous donner leur version, hein.
Mais ils ne pourront pas venir. Parce que quand même, ça fait plus de 10 ans qu'on fait cette émission. À chaque fois qu'il y a des soirées un peu agitées où on dit des choses, je suis quand même habitué au coup de fil de pression. Le coup de fil du lendemain, du joueur, de dirigeant. C'est-à-dire, on est habitué dans l'after. On a eu ça plein de fois. Et souvent, quand ça arrive, ça occasionne une discussion où l'autre personne que j'ai critiquée a quand même quelque chose à dire pour se défendre. Et là, on en parle ensemble et il y a une discussion. Et le mec, légitimement, il peut défendre son bout de gras.
Bah là,
lundi, j'ai entendu
une
dire
fois, l'antenne est ouverte.
Longuepée va essayer de te joindre pour te parler. Je n'ai plus une nouvelle. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont rien à dire et ils ne pourront jamais se défendre.
Bah, une nouvelle fois, s'ils veulent, demain, on est là.
Ils
la
peuvent,
semaine prochaine,
mais ils ne le feront pas.
Y a pas de problème.
Parce qu'il n'y a pas de défense possible. Ils sont complètement aux abois.
Ludo, plus généralement, est-ce que le problème ne vient pas finalement de la structure? C'est-à-dire, on a un club aujourd'hui qui appartient à un fonds de pension américain. Bon, ben bah voilà, les gars sont à New York. Ils délèguent à des personnes qu'on a décrites là. Donc au final, est-ce que la dématérialisation un peu du club qu'on constate, est-ce que la racine du problème, ce n'est pas celle-là? C'est qu'en fait, malheureusement, en France, maintenant, on a des clubs comme ça, quoi, où il n'y a plus d'identité.
Bah, le problème, c'est que tu avais deux coqs dans la même basse-cour et que c'était le coq le moins bon qui dirigeait le club. Donc, à partir du moment où King Street, qui, entre parenthèses, on ne sait pas bien hein, qui est King Street, on sait que King Street gère un patrimoine de 10 milliards d'euros. Mais King Street ne détient pas, c'est pas leur patrimoine à eux, 10 milliards d'euros.
Ah, bien, ils gèrent le patrimoine d'eux, c'est le principe du fonds
voilà,
de pension.
Donc, eux, à un moment donné, ils n'ont pas tant d'argent qu'on le prétend. Donc, moi, j'imagine qu'à un moment donné, en entendant tout ça, la mauvaise pub, l'image pour leur boîte, ils vont sortir du bois à un moment ou à un autre, c'est pas possible.
Donc, toi, tu appelles à ce que King Street réagisse et vende.
Aujourd'hui. J'appelle à ce que King Street réagisse. Et ils ont mis des incompétents à des postes stratégiques. Aujourd'hui, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a votre dossier, il y a le dossier en parallèle des supporters des Ultramarines qui lâchent une bombe par jour sur Twitter sur la façon dont Anthony Thiodet et Frédéric Longuepée traitent les médias.
Ah oui, raconte-nous ce qui s'est passé là sur Twitter, toi et Tremoulinas, avec une dame qui est chargée de communication. Vous avez été accusé, vous êtes défendu. C'est quoi cette histoire?
Bah, c'est assez simple. Nous, très chez moi, on a un agent en communication qui s'appelle Caroline Thiebaud. À l'époque, elle a répondu à un appel d'offres des Girondins quand GACP est arrivé à Bordeaux. Elle a répondu à cet appel d'offres. Elle a gagné l'appel d'offres. Face d'ailleurs à des ténors, mais c'est une dame qui sort de nulle part, mais qui travaille extrêmement bien, qui est extrêmement rigoureuse. Donc à partir de ce moment-là, elle est devenue l'attachée presse de Joe Dagrossa, d'Hugo Varela et de toute l'équipe. Donc à partir de ce moment-là, elle a fait avec les infos qu'elle avait, et à un moment donné, elle s'est retrouvée en race campagne quand tout le monde s'est barré, quoi. Donc elle n'a jamais été au courant de quoi que ce soit sur les coulisses de ce qui se passait au Girondin. Et Anthony Thiodet et Frédéric Landé, enfin c'est Anthony Thiodet lors d'une réunion qui a eu lieu avec des supporters triés sur le volet pour essayer de leur faire passer des messages et notamment énormément de mensonges. Ils ont été racontés que Benoît Tremoulinas, Christophe Dugarry, Florian Brunet, donc le boss des Ultramarines, Jack Darigo, qui a été viré, lui, et qui a été récupéré par l'Union Bordeaux-Bègles et moi-même, étions sous la coupe de Caroline Thiebaud et de GACP pour véhiculer des messages négatifs sur le club. Voilà. Si moi, j'ai attendu d'avoir Caroline Thiebaud pour... de travailler avec Caroline Thiebaud pour avoir des informations au sein des Girondins de Bordeaux, ça me paraît étrèche. Trèche qui restait là-bas. Un nombre incalculable d'années, quoi.
On peut confirmer avec Daniel que Christophe Dugarry n'a aucune attachée de presse, hein, par ailleurs.
Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, ils ont trié, ils ont pris des supporters, une quinzaine de personnes à qui ils ont essayé de mettre des messages dans la tête pour que eux ils puissent véhiculer à travers les supporters que les ultramarines sont des demeurés qui foutent le bordel constamment et qui ne comprennent rien. Et voilà. En fait, le climat en ce moment est délétère. C'est-à-dire que tu as un président qui est fâché avec son sportif, qui est fâché avec ses salariés et qui est fâché avec ses supporters.
Moi, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue. Tous ces gens-là doivent partir, mais qui peut les faire partir? Ça, c'est la véritable question. Mais Bordeaux ne peut pas avancer aujourd'hui. Il faut que King Street soit au courant de ce qui se passe pour virer tout le monde.
Allez, le mot de la fin, Ludo, vas-y.
C'est là où on en vient, c'est que l'image du club est importante. Il y a des gens très importants qui sont passés par le club. Il me semble que l'ancien président, qui est un homme extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Jean-Louis Triot, un geste fort serait peut-être, je crois qu'il y a encore, de quitter le conseil d'administration et puis d'entendre peut-être d'autres voix s'élever. Alors après, tu as beaucoup de gens au sein du club qui ont 15, 20 ans de boîte. Et qui, si demain tout s'arrête, si demain ils sont virés, ils se retrouvent sans rien, quoi. Donc,
Ouais, mais à un moment, il faut que les gens parlent. Les gens doivent arrêter de s'accrocher.
Des fois, quand tu joues ton boulot, c'est pas facile, hein.
C'est vrai.
Je sais que Marius, ils lui ont donné la présidence de l'association. Donc, bon, tu vois, ils tiennent un peu les gens. Ça met du temps à sortir, mais j'ai bon espoir que ça sorte davantage.
Merci Ludo.
Salut les gars, j'étais content de vous avoir, je vous embrasse.
Salut aussi mon Ludo. Et puis à bientôt dans l'after.
Bisous les copains.
Salut Ludo, à très bientôt. Ludo Cobraniac qui était donc avec nous, ancien joueur des Girondins. Pause et ensuite on accueille Jean Morel au 32-16, il est supporter bordelais lui aussi. On continue le débat jusqu'à 23h et ensuite on passera à l'actu du jour. Jean-Michel Aulas a écrit aux députés aujourd'hui. Messieurs, je vous raconte ça dans quelques minutes, bien sûr. Ça fait partie entre autres de l'actu du jour. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Pierre Ducros, Jérôme Bretagne, Daniel Riello, ils sont là. On va conclure le débat avec Jean Aurel et également avec Romain, qui lui s'occupe d'un site bien connu à Bordeaux qui s'appelle Girondin Forever. Jean Aurel, bonsoir.
Bonsoir à tous, vous allez bien?
Ça va et toi? Merci d'avoir patienté. T'es supporter des Girondins?
Oui, mais autant que Romain, d'ailleurs, je le salue, on se connaît. Donc voilà, on est tous en famille ce soir pour parler de Bordeaux. Je voulais vous remercier, vous, l'after, d'avoir pris au moins 3 jours pour élucider tout ce micmac des Girondins de Bordeaux. Donc merci à Daniel.
Je précise une pression que je dois faire depuis 3 jours. Parce que je reçois un message, je la fais parce qu'elle me revient. Après je te redonne la parole, Jean Aurel. Parce que j'ai Lolo qui me dit et le directeur sportif officieux, il parle pas. Ah ben attendez, évidemment que quand on parle de Baptiste Le Caplain, qui est notre pote, en disant c'est le directeur sportif, évidemment qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Hein, je tiens à le préciser. Donc quelques messages, je me dis ouais Baptiste et tout.
Bon, moi je crois que c'était pour ça qu'on l'entendait pas.
Baptiste le pauvre,
il est deux pieds dedans.
Le pauvre, et lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon.
Allô, vous êtes là?
Oui, ouais, Jean-Aurel, vas-y, tu peux enchaîner.
Merci. Oui, donc merci. Hein. Donc je réitère vos interventions et merci à Daniel d'avoir fait son investigation. Je sais qu'il a beaucoup bossé ce week-end. Il était pas mal au téléphone.
Ça lui arrive des fois.
Et il y a aussi après avoir dépeint les différentes personnalités. Il y a aussi un constat qui fait froid dans le dos, c'est le déficit des Girondins de Bordeaux. C'est comment rembourser cette dette massive. On parle quand même d'un déficit qui va au-delà de 60 millions d'euros. Pour un club comme les Girondins de Bordeaux, ce n'est pas neutre. Sachant qu'il va falloir payer aussi le transfert de Rémi Houdin, il va falloir encaisser la baisse des droits télé, ce genre de choses. Et ça, c'est la question, est-ce que King Street va remettre au pot ou pas? On n'a pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Avec le climat délétère dont parlait Ludo, on a très très peur ici en Gironde de ce mot, hein, c'est le dépôt de bilan, on a très très peur de ça.
C'est ce que disait Christophe Dugarry tout à l'heure dans Tine Dugarry, lui aussi.
Et on voit pas comment ça pourrait être autrement. Alors il y a une petite phrase, puisque Ludo en a parlé tout à l'heure. Ce sont les enregistrements de Thiodé qui sont diffusés en ce moment par les Ultras. Et, oui. Et je les remercie de leur combat aussi pour faire vivre un petit peu ce débat depuis tant de mois. C'est qu'à un moment donné, c'est une petite phrase qui est très importante. C'est qu'il dit « Le club ne sera pas vendu sauf à 120 millions d'euros ». C'est M. Thiodé qui le dit. Vous pouvez le retrouver sur les enregistrements. Donc ça veut dire que M. Fievé, qui a déposé une lettre d'intention pour acheter le club, c'est notre espoir un petit peu à Bordeaux hein, pour l'instant, Bah, ça veut dire, bah, écoute, mec, si tu veux racheter le club, il va falloir que tu.
Tu connais le prix, quoi, maintenant, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc, on croise les doigts très, très fort, mais pour en arriver là, pour qu'aujourd'hui les supporters bordelais soient tournés vers ce genre d'étoile, c'est dramatique, un monument comme Bordeaux.
De toute façon, il y a qu'un seul moyen. Alors, ça tombe effectivement très, très mal au vu du contexte qui va faire que pendant très longtemps, ça va jouer à huis clos. Mais hors ce contexte-là, et quand il sera fini le plus vite possible, je l'espère, il y a qu'un seul truc qui fera, au final, peut-être un peu basculer les choses encore plus que la situation qui est terrible, c'est que le stade soit vide en permanence, qu'il y ait des manifestations, que jusqu'à ce que King Street comprenne à qui ils ont donné le club et qu'ils arrêtent et qu'ils vendent à la moitié de ce qu'ils ont acheté, parce que de toute façon ils seront quand même gagnants, parce qu'il y a eu des ventes, parce qu'il y a un capital joueur et parce que ça ne passera que par là. Ça ne passera que par une réaction. Des gens parce que le stade vide, les gens désintéressés par le club, ça ce sera le message le plus fort que pourra recevoir King Street.
La réponse, vous en aviez parlé il y a peu, cette incompétence, cette image de vouloir réduire les places, quel aveu de faiblesse.
Quand on racontait que vous voulez réduire le stade.
Oui, ça c'était.
Exactement. Alors on parle, vous l'avez dit, hein, vous avez bien résumé les choses quand même. C'est qu'on a soi-disant des mecs tip-top dans leur domaine, sauf que les mecs.
Ils sont pas tip-top dans leur domaine, il s'est planté partout l'autre avec son plan Marshall.
C'est ce que je voulais dire, merci Daniel. C'est une catastrophe. Dès qu'il prend une décision, parce que vous avez parlé de la billetterie, vous avez aussi parlé de ses partenariats, c'est tout simplement. Scandaleux, c'est très 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 mal accueilli.
Non mais le tissu local est terrible.
Jean-Aurel. On va donner la parole à Romain également.
Juste attends, Jean-Aurel, tu peux nous raconter quelque chose qui a beaucoup marqué les Bordelais, qui vu de l'extérieur peut paraître pas grave, mais enfin moi je trouve que c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe. La fameuse Académie PSG à Mérignac.
Ah je peux.
C'est quoi ça?
Surtout qu'en plus, Daniel, ça c'est terrible. Tu mets le doigt dessus. C'est pas n'importe quoi dans le sens où c'est pas n'importe qui est venu l'ouvrir.
Absolument.
C'est Pedro Miguel Pauleta, voilà. Qui est à Bordeaux, on l'adore.
Moi je suis pas au courant de ça. Pauleta est venu ouvrir une académie PSG à Bordeaux.
C'est le PSG qui ouvre une académie de plus. Ils en ont partout dans le monde.
Mais ce que les Bordelais
Miguel Pauleta qui est venu faire l'ouverture.
Voilà,
c'est
comme si les terres sur lesquelles Bordeaux doit recruter ses jeunes.
Il y en a d'autres en France, des académies PSG comme ça.
Oui, il y en a partout dans le monde.
Mais celle-là, en gros, sur les terres bordelaises, là où ils avaient l'habitude de recruter, parce que faut savoir qu'on parle souvent de la formation bordelaise. J'expliquais l'autre jour.
Du colonialisme.
Mais mine de rien, sur les 20 dernières années, ceux qui ont réellement réussi à passer les échelons et à jouer, ce sont des mecs du cru. C'est pas les gars qu'ils allaient chercher à droite à gauche. Donc sur les terres bordelaises où ils avaient l'habitude de recruter leurs jeunes plutôt que de Souleymane Cissé qui les recrute partout dans le monde, eh ben on a laissé une PSG. Alors tu peux pas l'empêcher. Tu peux pas dire vous avez pas le droit. Mais symboliquement, le fait que cette académie PSG se monte à Mérignac en pleine terre bordelaise,
comme dit Jérôme, il va pas y avoir d'académie PSG à mon avis ni à Marseille ni à Lyon. Hein. Donc ça montre également là ce que représente aujourd'hui le club dans le tissu local quand même.
Ils se permettent ça coupés du tissu local des terres bordelaises. C'est ce qu'on dit. Le plus grand drame du duo Longue Épée Thiodé, ce pourquoi les supporters et tout le monde à Bordeaux. Je répète, le tissu socio-économique culturel.
Jean-Aurel, je te remercie. Il faut qu'on donne la parole à Romain. Hein, donc
grosse bise à Romain d'ailleurs.
Je te remercie Jean-Aurel. Romain de Girondins Forever. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bon, alors toi, qu'est-ce que tu veux retenir là de cette semaine? Bon, il y a eu évidemment ce qui s'est passé dans l'after, mais également donc sur
Girondins Forever, sur le truc depuis longtemps, ils avaient déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ils sont peut-être moins médiatiques que nous, mais sur Bordeaux, ils sont très importants. Et eux ont bossé depuis longtemps. Hein.
Bon, alors, quel message tu veux faire passer, Romain, alors?
Merci beaucoup, Daniel. Effectivement, c'est un sentiment d'identité, quelque part. Ce qui pose problème dès le départ, c'est que le projet initial, c'est de développer de la marque, du business, mais sans que ce soit en corrélation avec le sportif. L'idée, c'est vraiment de développer tout ça, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas en France. Il faut que le sportif fonctionne avant tout pour pouvoir développer ces deux points-là. Ce qui ressort de Frédéric Longuepée et Anthony Thiodé, c'est une certaine froideur, quelque part. Frédéric Longuepée, il est en froid avec les ultramarines, avec l'idée de les mater, avec une espèce de formation, vous savez, post-plan le pro au PSG, quoi. Il était formé à cette école-là. Il a été en froid avec Joe da Grossa, Paulo Sousa, les partenaires, les salariés. Donc il y a eu des dépressions, des démissions, froid aussi avec la mairie, froid avec la presse, qu'on a découvert aujourd'hui par l'intermédiaire des enregistrements des ultramarines. Comment voulez-vous en fait créer une alchimie? Comment voulez-vous créer un mouvement vers l'avant, quoi? C'est ça, c'est surtout ça, là. C'est la froideur dans les relations, les décisions, les non-décisions.
Bon. Absolument. Est-ce que tu vois une issue, mise à part la vente?
Non, alors vous parliez effectivement de dépôt de bilan. Dépôt de bilan, ça peut être bien et pas bien, parce que s'il y a un dépôt de bilan quelque part, ça ouvre la porte à un investisseur. Donc ça veut dire que quelqu'un peut mettre vraiment les pieds dedans, parce que King Street refuse complètement de communiquer à ce niveau-là et refuse de répondre aux éventuels investisseurs. Donc ça peut ouvrir la porte et éventuellement donner un avenir un peu plus gai, quoi. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça sur le dépôt de bilan. Il y a des mesures qui ont été faites et King Street, à mon avis, ne voudra pas partir maintenant. Ils sont à 3 mois des nouveaux droits télé. Ça veut dire que forcément, ils vont encaisser avant, éventuellement vendre tout ce qui reste de la mariée. C'est pas le moment pour eux de partir. Peut-être l'année prochaine, en vendant tous les bijoux de famille, les peu de bijoux de famille qui restent. C'est le meilleur moyen pour eux, le meilleur moment pour eux de partir d'ici un an, pas maintenant.
Romain, merci beaucoup. Donc je renvoie vers Girondin Forever. Vous existez sur tous les supports, hein, les réseaux sociaux, bien sûr. Merci à toi, Romain. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour ça. Bonne soirée à vous. Bonne
Salut. Soirée. Je reviens à la PSG Academy. C'est pas dans une ville comme Strasbourg qui ferait ça, le PSG. Quand même. Franchement. Vous ne laisseriez pas faire, quand je veux dire.
Non mais tu comprends que quand je veux dire que c'est pas anodin.
Bien sûr. Non, mais je ne choquerai pas.
Moi, personnellement, ça me choque de savoir qu'il y a une PSG Academy dans une ville comme Bordeaux, qui est une ville de foot avec un club historique.
Une PSG Academy.
Excuse-moi, je.
Non, mais c'est ça. À Strasbourg, ça te choquerait, quoi, qu'il y en ait une.
Bah, bien sûr, ça me choquerait.
Eh ben, il y en a une.
Bah, il y en a une.
Et sans doute qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de Strasbourg qui voient la PSG Academy de Strasbourg. Si tu veux.
Non mais ceci, la PSG Academy, c'est bien, c'est pour des enfants un peu défavorisés, etc. C'est pas un truc
les clubs qui devraient les développer.
Exactement. Oui, bah le PSG le fait. Ils ont une vingtaine d'enfants en fait, en regardant son réseau.
Mais là, à Mérignac, c'est Bordeaux, le club devrait faire ça pour augmenter sa culture club auprès des gamins de la région et pour qu'eux aient envie de jouer à Bordeaux.
Créer un attachement. Ouais, voilà.
Bien sûr, au lieu que l'autre, il aille recruter et faire ses transferts relais en Afrique, qu'ils prennent les gamins autour de Bordeaux et qu'ils les mettent là. Et pareil à Strasbourg et ailleurs. C'est pas le coupable, c'est pas le PSG.
Non, mais c'est
qui veut être un club dominant. Le coupable, c'est ceux qui laissent faire.
Les PSG Academy sont pas faites pour recruter des gamins pour devenir pro, etc. Machin. C'est un rôle social dans la PSG Academy.
Exactement. Mais c'est aussi pour que le mec se sente attaché au club.
Il a une stade ensuite. T'as l'adresse de Strasbourg, là?
Oui, en face de la Méno.
Non, je crois pas.
Non, il n'y a pas l'adresse. Attends. Strasbourg. Rejoignez l'école de Strasbourg, le centre urbain de soccer de Strasbourg accueille et organise le Paris Saint-Germain Academy.
Ah ouais, non mais en fait c'est juste, il faut un après-midi PSG Academy, non, c'est pas la PSG Academy.
Dès le plus jeune âge, j'ai futur genre ambassadeur.
Souvent dans les centres urbains de soccer, on est.
Je vais enquêter sur cette histoire, moi.
Ah ouais, tu peux.
Dans quelques instants, l'actu du jour, on parlera du Portugal, également avec Nico Villas et le quiz, bien sûr.
Après, il y en a une aussi à Clermont-Ferrand, hein, donc ça montre que vraiment, ils s'installent dans des clubs qui ont une image très forte, quoi, tu vois.
Ah mais lui, il s'est revu contre le Real sur RMC Sport 1 ce soir, il n'en peut plus.
Il s'est revu simulé, surtout.
Non, mais il y en a une à Grenoble, il y en a une à Dijon.
Angers, Lille, Montpellier, Clermont, Strasbourg, Toulouse.
L'identification de ces clubs est très forte.
Qu'est-ce que c'est celui? C'est du colonialisme. Stop.
Il manquerait plus qu'il y en ait une à Rennes.
Allez, à tout de suite.
L'autre, il est fou derrière.
Quand même pas.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.